Bonjour, vous êtes dans Des mots d'ici, des mots d'ailleurs sur www.fréquencemistral.net. L'émission qui vient sonder l'intérieur et l'extérieur de vos vies en son, en mots et en notes. Et si tout ceci n'était dû qu'à une suite de rencontres, des mots d'ici, des mots d'ailleurs. T'as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou garder les volets fermés. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. De Paris. Voilà un truc qui a pour titre « Nouvelles de la Grande à Lourdes ». Ouvre, s'il te plaît, un dossier Mougins. Et place ça avec les autres trucs, bon. Car je ne garde rien, tu sais, c'est vrai. Si un jour paraît un autre petit bouquin de moi, eh bien, nouvelle de la Grande à Lourdes y figurera. Peut-être j'utiliserai également ce titre pour un ensemble. Il me plaît assez, oui. À bientôt, chers frères. La lumière sur Écouflant est jolie et tout est en fleurs et tout chante. Mais la guerre dure toujours en Algérie. Ne l'oublions pas. Jamais. Jeanne fait des ballots. Je crois que ballot prend deux ailes, comme si des ballots pouvaient voler. Bon, passons. J'aide un peu, j'ai fourré mes bouquins dans les caisses, des romans, très peu. Des plaquettes de poésie. La poésie. Beaucoup de poètes. Aussitôt né, aussitôt mort. Les mémoires de Saint-Simon, merveilleux Saint-Simon. Et le journal littéraire de Léoto, un régal pour moi. Donc hop, en caisse, pour Angers, pour Écouflant. À Écouflant, il n'y a pas encore d'eau pour Jeanne. Au moment où l'on venait de finir d'installer à Revesse des Brousses, un robinet dans la cuisine. Ça alors. Eh oui. J'espère que tous mes amis viendront vite me voir, n'est-ce pas? Tous, hommes et femmes, me voir au pays du vin blanc, que je n'aime pas du tout. Au pays des fleurs, des artichauts, des choux-fleurs et des sabots de bois, que les paysans appellent des pilons. J'emporte bien sûr mes cartons bourrés de dessins et puis mes racines et puis mes ferrures. Enfin, des centaines de petites choses qui ne valent rien et que j'aime tant à regarder, à caresser aussi. Je quitte définitivement le Revest des Brousses et son soleil et sa lumière. Je ne marcherai plus sur le thym, je ne respirerai plus l'odeur de la sarriette. On ne verra plus le facteur Mougins à Revesse des Brousses. Il faut apprendre, n'est-ce pas, à quitter un petit peu quelque chose chaque jour pour être fin prêt au dernier moment. Parce qu'alors, on quitte tout. Je ne veux pas, quand je tirerai la dernière cartouche, je ne veux pas avoir trop de peine. Il faut apprendre à abandonner, oui, et pour toujours, ce qu'on a tant aimé. Voilà ma philosophie, et je crois qu'elle est bonne. Oui, je crois qu'elle est bonne.
My sweet Lady J, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady J. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. Time has come, my love, I pledge my troth to Lady J. My sweet Marie, I wait at your ease. The sands have run out for your lady and me. Wedlock is nigh, my love, her station's right, my love. Life is secure with Lady J.
Voici un homme déguisé vient me voir pour me demander des comptes. Il est assez drôle avec sa cravate et son faux col. Et sa serviette. Je suis chef de bureau, qu'il me dit. Zut, moi qui ai envie d'aller visiter un nid de chardonneret à la Lourde. Bonjour bureau, comment va ta cravate? Que je réponds. Estrafour, s'il ne dit pas encore ma poste, dit mon bureau, mes timbres, mon guichet, mes registres, ma fin de mois, mes facteurs. À la Lourde, Estrafour est devenu Mammon, l'homme des possessifs. Un faux col, une cravate, un petit complet gris à rayures, Mammon. Il récite des vers en tamponnant, Le cantonnier pour lui c'est Alceste, le bénévent, l'instituteur, ce housard aimé entre tous. Mamon et Strafour regardent souvent en l'air, il est tellement inspiré. Machinalement, il écrase les mouches sur les vitres de son bureau. « Bêtes impures » s'écrie-t-il, « hors d'ici ! Éloignez-vous de mes yeux ! C'est gênant pour les clients !» Il se pourrait que le directeur des postes reçoive des lettres anonymes concernant le sieur Estrafour. On est fort. À la Lourdes, très fort pour ce genre de littérature. Je vole vite du temps à l'administration pour te dire bonsoir. J'achève la comptabilité journalière, pas un sou de moins, pas un sou de plus. Je ne peux guère écrire, tu sais. C'est toi qui as dit un mot juste me concernant. Tu t'en souviens ? Il s'agissait de l'étouffement des écrivains prolétariens. Les exigences du pain quotidien font que parfois j'en oublie d'écrire. La fatigue et l'amertume, deux poids qui nuisent à la création. Je dis ça très calmement, c'est la vérité. À 5h30, tous les matins, je suis debout. Et j'attrape, avant même de boire la tasse de café, avant même d'aspirer une bouffée de ma première cigarette, journaux et lettres et mandats. Tout y passe, je trie, je classe et j'inscris. Après, eh bien, Jeanne m'apporte le café et je fume. Mais déjà, le jour pointe sur Écouflant, le toit de l'hospice bleuit. Le ciel remue tous ses nuages. Le vent se lève. Je pense pouvoir te dire ce que je fais entre 8h et midi un autre jour. Allez, je t'embrasse affectueusement. Cry. très souvent, mon père utilisait un mot en parlant de 14-18. La merdaille. La guerre d'Algérie pour Jules Roy, c'est un merdier. En somme, nous sommes toujours dans la merde. Voilà. Monsieur le préfet, moi, ça va pas. Je vous l'écris. J'ai pas de quoi vivre. Je ne peux même plus fumer, c'est trop cher. Je me prive de tout, arrivé à mon âge. Mais je vous dis, c'est avec notre argent que vous faites les guerres. Un certain Jacques Baumel, sénateur, affirme que la force combattante du FLN est réduite à 8000 hommes. Si nous estimons à 400 000 le nombre de nos fils qui servent actuellement en Algérie, et si à ce nombre nous ajoutons les 180 000 musulmans combattant avec l'armée française, nous arrivons au fantastique total de 580 000 hommes. J'ai ressenti un grand malaise à la lecture de cette nouvelle parue dans le journal Le Monde du 8 novembre 1960, page 3. Voyons, Monsieur Baumel, votre plume n'a pas tremblé en écrivant cela ? 580 000 hommes contre 8 000 ! Moi, je vais vous dire, devant un tel drame, j'enlève mon béret de facteur, je m'incline, et mon cœur est tout barbouillé de larmes.
Would never forget. die, and that your death will come soon. I'll follow your casket on a pale afternoon, and I'll watch while you're lowered down to your deathbed, and I'll stand over your grave till I'm sure that you're
bonheur. Trouver l'air plus léger, s'attendrir, écouter Jacques, écouter Paul, se sentir soulevé de terre.
La bougie recroquevillée poussa à râle. La flamme se noie brusquement dans une petite mare de graisse. Puis le jour entre lentement. Il se glisse entre les barreaux, coule le long du mur, échoue dans un coin. Il se tapit là et regarde. Svonar lui sourit et le jour lui répond, une sorte de lueur rose, timide, à peine perceptible. Le Macédonien ronfle contre son épaule. Ils dorment serrés l'un contre l'autre pour avoir plus chaud. Il fait assez clair maintenant pour voir les graffitis sur les murs et Svonar les relit chaque matin. Rien de tel que l'indignation pour faire circuler votre sang plus vite. « Je te salue, homme, éternel pionnier de toi-même. » Zdravko Andrić, étudiant en lettres à l'université de Belgrade. « Où ? L'homme n'est encore qu'un pressentiment de lui-même. Un jour il se fera. » Pavel Pavlovčić, étudiant en droit de Sarajevo. Et encore une fière citation du poète français Henri Michaux sur le même thème. Celui qu'un caillou fait trébucher marchait déjà depuis 200 000 ans lorsqu'il entendit des cris de haine et de mépris qui prétendaient lui faire peur. Une autre main avait d'ailleurs gratté plus bas. Les patriotes yougoslaves, auteurs de ces nobles pensées, ont été fusillés par les Allemands ce matin. Mais les Allemands n'ont fait qu'assurer la relève, pense Svonar. Ils ont porté le flambeau un peu plus loin et voilà tout. Ils n'ont fait que continuer l'œuvre de nos illustres pionniers. Il a lui-même ajouté une ligne au graffiti en guise de conclusion. L'affaire homme, une assez sale histoire dans laquelle tout le monde est compromis. Ça a été plus fort que lui. Il y a comme ça des murs contre lesquels on a immédiatement envie d'uriner. Avant de rejoindre Tito dans le maquis, il avait été journaliste à Belgrade. Il avait une femme et trois enfants. Et il en avait assez d'attendre depuis 6 semaines, son dernier matin, sans même un roman policier pour vous réconforter. Le Macédonien pousse soudain contre son épaule un hurlement de bête blessée. « Il doit encore faire un beau rêve, » pense Svonar. Il le saisit par le bras et le secoue violemment. Le dormeur se réveille en sursaut. « Elle est encore venue me montrer la langue, » bredouille-t-il, « comme ça !» Il tire une langue interminable, enflée, avec sa peau de mouton, ses cheveux et sa barbe hirsute, son cou de taureau et des mains de géant. Il ressemble à quelques monstres mythologiques échoués dans la réalité. Le Macédonien n'est pas un politique. Il a bien tué quelqu'un, une vieille femme, mais pas pour une idée, pour la dévaliser seulement. En somme, c'est impur. C'est curieux qu'elle te montre toujours la langue. C'est pas curieux, je l'ai étranglée. Ah bon, dit Svonar. Il bâille. Alors le jour où elle te montrera son cul, ça voudra dire qu'elle t'a pardonné ? Il regarde vers la porte. Il a l'impression qu'on a marché dans le couloir. Ça doit être nerveux, pense-t-il. On fait une partie ? Le Macédonien sourit. Il se sait invincible. Depuis qu'ils sont là, Svonar n'a pas réussi une seule fois à le battre. Il doit faire plus chaud chez lui, pense Svonar. C'est un jeu vieux comme le monde. Il s'agit de compter ses poux et d'en trouver plus que votre partenaire. Il commence à se fouiller. 5, annonce presque aussitôt le Macédonien en abattant son jeu. Il se gratte d'une main experte et ajoute immédiatement « 3 et 2, ça fait 10. Je passe. » Il attend avec confiance. Zvonar se fouille avec application. Rien. Il ôte sa chemise et l'examine attentivement. Toujours rien. « Ils ont foutu le camp, constate-t-il. » Le Macédonien a l'air effrayé. « Cherche bien !» Zvonar cherche un bon moment. Pas un pou. Pourtant, il a passé la nuit à se gratter. Les deux hommes se regardent. Le Macédonien baisse les yeux. « Oui, eh ben on a compris, » dit Zvonar. « C'est pour ce matin. »«
Faut pas être superstitieux, » proteste faiblement le Macédonien.
Zvonar prend dans sa poche une lettre qu'il tient prête depuis 6 semaines et la lui donne. « C'est pour ma femme. N'oublie pas. »
Ils vont peut-être venir.
Tout de même, dit Zvonar, comment peuvent-ils savoir à l'avance? Ils doivent avoir des pressentiments, un sixième sens, il faudrait un jour tirer cela au clair.
Ils ont l'habitude, explique le Macédonien. Il y a un bout de temps qu'ils sont là, ils en ont vu, les poux se taillent toujours au bon moment.
C'est connu.
La sagesse populaire, quoi, dit Zvonar.
Le Macédonien essaie de se rattraper.
Mais des fois, ils se trompent, dit-il, tout le monde peut se tromper.
On marche dans le couloir. La clé grince dans la serrure. Deux gardiens entrent, suivis d'un sous-officier SS et d'un prêtre. Le prêtre porte une grosse croix d'argent sur la poitrine. Le sous-officier tient une liste à la main.
« Zvonar, journaliste !»«
C'est moi. » Le Macédonien roule des yeux effrayés. Il se signe. « Jésus-Marie, bégaye-t-il. »
Zvonar lui-même est impressionné. Il est bon tout de même de pouvoir quitter la terre sur un sentiment de mystère. Si les poux peuvent lire l'avenir... S'il existe une puissance mystérieuse pour les avertir et les sauver à temps, tous les espoirs sont vraiment permis. Il a l'impression d'avoir assisté à un acte miraculeux qui prouverait presque, ou en tout cas rendrait plus plausible, l'existence de Dieu. Il a été un athée toute sa vie, mais il y a tout de même des signes qui ne trompent pas et des évidences auxquelles il faut bien se rendre. Rien de tel qu'une révélation surnaturelle avant de mourir. Il regarde le prêtre et se met à rire.
« Je suis prêt, » dit-il.
Un jour le diable vint sur terre. Un jour le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable. Il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, là-bas. Et là-bas, on avait fait un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours. Ça va. Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre, ça va. Des trains déraillent avec fracas, parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales, ça fait des morts sans confession. Des confessions sans rémission, ça va. Rien ne se vend, mais tout s'achète. L'honneur et même la sainteté, ça va. Les états se mutent en cachette. En anonyme société, ça va. Les grands s'arrachent les dollars. Venus du pays des enfants, l'Europe répète l'avare dans un décor de 1900. Ça fait des morts d'inanition et l'inanition des nations, ça va. Les hommes, ils en ont tant vu que leurs yeux sont devenus gris, ça va. Et l'on ne chante même plus dans toutes les rues de Paris, ça va. On traite les braves de fous et les poètes de nigauds. Mais dans les journaux de partout, tous les salauds ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens et rire les malhonnêtes gens. Ça va, ça va, ça va, ça va.
Le le protecteur de la Serbie est assis derrière la table de travail dans l'immense bureau du château royal de Belgrade. Et en face de lui, au garde-à-vous, le petit doigt sur la couture du pantalon, se tient son fidèle ordonnance tchèque, le bon soldat Schweik. La table est jonchée de bouteilles de bière, Pilsen pour les connaisseurs, à 50 pfennigs la bouteille. Sur le tapis, des bouteilles également, mais vides. Il est 5 heures du matin, le protecteur de la Serbie regarde avec dégoût le jour blême, le jour vaincu, le jour affamé, le jour yougoslave, qui se traîne à ses pieds malgré l'heure matinale. On dirait qu'il vient déjà présenter des requêtes, des recours en grâce, geindre, insister. Le protecteur de la Serbie lui décoche un coup de botte, mais le jour reste là. Il se fait même plus visible, plus clair, plus insolent. C'est tout juste s'il ne s'installe pas sur son bureau, s'il ne fouille pas parmi ses papiers. Le protecteur de la Serbie est furieux. Le jour lui rappelle qu'il a passé la nuit à boire et que son rapport, son fameux, son capital rapport, n'est toujours pas commencé. « Relis, Schweik » ordonne-t-il. « Yavol !» dit le dévoué. Le bon soldat Schweik. « J'ai l'honneur d'appeler l'attention des hautes autorités compétentes. J'ai l'honneur de rendre compte. » Il s'arrête. « C'est tout ?»« Alors bois. » Ils boivent. Le protecteur de la Serbie est ivre, extrêmement ivre, et l'affaire est d'une délicatesse, d'une difficulté inouïe. Elle obsède et torture sa cervelle, mais refuse obstinément de se laisser exprimer en mots. « Schweik ? Yavol ? » Ce matin, on va encore exécuter un otage. Et qui choisit-on ? Un journaliste célèbre, un pamphlétaire redoutable, habitué de plus au travail subversif. Dès que son âme révolutionnaire sera rendue là-haut, qu'est-ce qu'elle va faire ? Parfaitement, elle va faire de la propagande contre nous. Elle va éditer un journal, elle va publier contre nous des articles incendiaires, de véritables appels à la révolte. Elle va ameuter toutes les âmes contre nous, Schweik. Contre nous, Yavol ! Répète avec satisfaction le bon soldat Schweik. Elle va nous calomnier, elle va nous dénoncer, elle va mobiliser contre nous des forces inouïes. Nous sommes des insensés, Schweik, des insensés. Nous expédions là-haut des millions d'âmes ennemies, nous leur donnons des moyens de transport, nous organisons une cinquième colonne d'âmes fortes, résistantes, têtues, bénéficiant souvent d'un sérieux appui religieux et dirigées entièrement contre nous. Une levée en masse, un front uni d'âmes bien armées, bien entraînées, bien équipées. Écrit. J'ai l'honneur de vous rendre compte que l'exécution ne fait que libérer dans chaque prisonnier politique l'élément révolutionnaire par excellence et ennemi juré du national-socialisme, à savoir l'âme. Or, que font-elles ces âmes une fois arrivées là-haut ? Elles s'organisent, elles complotent, elles font paraître des journaux, elles distribuent des tracts, elles tiennent des meetings, elles constituent des milices, elles forment contre nous un bloc résolu, rompu à la lutte politique, soutenu par les juifs et les chrétiens, et ce bloc, nous l'avons formé de nos mains et l'augmentons tous les jours. Point. Alors bois. Ils boivent. J'ai l'honneur de demander à la très haute autorité compétente, notre police là-haut est-elle bien organisée ? Quelles sont ses directives et ses effectifs ? Les autorités locales sont-elles favorablement disposées à notre égard ? Existe-t-il là-haut des prisons et des camps de concentration pour âmes, avec des cadres suffisants pour maintenir l'ordre ? Je me permets de répondre, beuh. Rien n'a été fait, rien n'a été prévu, rien n'a été organisé, rien ! Et pourtant, nous avons besoin d'appui là-haut. Nous avons besoin d'amis, sûrs, compréhensifs. Car nous n'y entrerons point le jour venu à la tête de nos armées victorieuses, protégées par des tanks portés par des avions. Nous y entrerons seuls ! Sa voix se brise. « Seul, bégaye-t-il, j'y entrerai seul !»« Seul, répète fidèlement le bon soldat Schweik. Yavol !» Le producteur de la Serbie vide une bouteille de bière. « Nous avons beau être victorieux, redoutés, puissants, posséder l'Europe d'un bout à l'autre, nous y entrerons seuls, tous, même les plus grands d'entre nous, le Führer, chut, 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 le Führer y entrera seul, chut, chut. Ce jour-là, quand il se présentera, nous n'aurons pas assez de tous nos amis là-haut. Nous aurons besoin d'appui, nous aurons besoin de protection. » Il se penche en avant. Or, murmure-t-il, qui envoyons-nous pour nous préparer le terrain ? Qui ? Nos ennemis les plus acharnés, les âmes. Les âmes des exécutés, des morts de faim, des morts de désespoir. Elles sont là-bas, elles nous attendent. Elles complotent, elles s'organisent, elles s'arment, elles sont prêtes. Elles occupent tous les points stratégiques. Elles se mettent en position. Ils hurlent soudain. « Nous sommes foutus ! Prends-moi note de ça, Schweik !»« Yavol !» dit avec satisfaction le beau soldat Schweik. « Nous sommes foutus !»
burn the street. You'll burn your houses with anxiety. With anxiety.
Mihalić ouvre les yeux. Son regard glisse sur le mur opposé, tombe par terre et se fixe sur un rat qui traverse justement la cellule. Il la traverse dignement, sans se presser. Il s'arrête même, chemin faisant, et jette à Mihalić un sale regard, nettement insultant. Mihalić se penche, saisit son soulier. « Laissez ce rat tranquille, » dit une voix. « Nous sommes chez lui, ici. » Mihalić se dresse, surpris. Sur le grabat opposé, jusqu'à ce jour inoccupé, un monsieur est assis. C'est un monsieur bien, assez âgé, très proprement mis. Il porte un lorgnon, un col cassé et un nœud papillon. Il n'a pas quitté son pardessus et tient son chapeau à la main. Mihalić se gratte le dos et regarde l'intrus avec mélancolie. Vous remarquerez que j'ai fait le moins de bruit possible cette nuit. Pour tout dire, cher monsieur, j'ai pénétré dans votre refuge sur la pointe des pieds. Il parle d'une voix assurée, avec détachement, en homme habitué à être écouté. Mihalić est perplexe. « Qui êtes-vous » demande-t-il avec une sévérité qui cherche à compenser son manque d'assurance. « Je suis, » dit le monsieur, « je suis la jonction ferroviaire de Molinec-Clichy pour vous servir. » Il soulève son chapeau. « Un toquet, » pense Mihalić avec une certaine appréhension. De nouveau, il empoigne son soulier à tout hasard. « Je suis évidemment quelqu'un de très important, » dit le monsieur, sans fausse modestie. « Quand je pense à tout le ravitaillement du front d'Italie qui passe par moi, savez-vous qu'au cours de la dernière semaine seulement, j'ai été traversé par 5 convois militaires allemands par jour, chargés de troupes et de canons. La conscience du rôle important que je jouais dans la bataille de l'Europe m'empêchait de dormir la nuit. J'ai une très jolie gare régulatrice, continue le monsieur rêveusement, comme s'il parlait de ses charmes intimes. Je suis parcouru par une rivière, à un de mes bouts il y a un tunnel, à l'autre un pont suspendu. Mihalić le regarde avec un intérêt professionnel. 5 convois par jour, grogne-t-il, on n'a jamais essayé de vous faire sauter ? 4 fois, dit la jonction ferroviaire de Molinec-Clichy avec fierté en ajustant le lorgnon sur son nez. Mais le travail était fait par des amateurs. Je n'ai subi que des dégâts insignifiants. Un léger retard et les convois allemands se remettaient en route pour le front. Alors j'ai décidé de prendre l'affaire en main moi-même. J'ai établi un plan, je me suis procuré les matériaux, j'ai surveillé les premiers travaux. Les honorables autorités du protectorat ont eu vent de quelque chose. En votre qualité de maire de Molinec-Clichy, nous vous prenons comme otage. Vous répondez sur votre tête de ce nœud ferroviaire important. Alors ? Alors mon fils est toujours libre, fort heureusement. C'est un ingénieur expérimenté. Son éducation m'a coûté beaucoup d'argent. Il regarde sa montre. Le travail a dû être fait à 3h ce matin, c'est-à-dire il y a 2h exactement. Le front d'Italie attendra en vain ses renforts. Quant à moi, je ne pense pas avoir à attendre longtemps. Un bruit de bottes dans le couloir. La clé tourne dans la serrure. Le monsieur se lève, ajuste son pince-nez et met son chapeau. La jonction ferroviaire de Molinet-Clichy vous fait ses adieux, camarade.
Schweig, jawohl. Je les vois, toutes ces âmes. Elles sont partout. Elles grouillent, elles rampent, elles hurlent, en serbe, en polonais, en français, en russe, en yiddish. À bas le fascisme, à bas les bourreaux, à bas les sans cœur, les sans pitié, les sans dieu, à bas... Il appuie un doigt contre sa poitrine. À bas le protecteur de la Serbie, qu'on nous le donne, qu'on nous jette son âme, on l'enfermera dans une cellule puante, on l'affamera, on le torturera, on lui fera perdre la raison. Schweig, jawohl, je ne suis pas encore mort, hein? Je suis toujours là, ce n'est pas encore commencé. Ou bien est-ce que... Schweig? Jawohl, fait le fidèle Schweig. Vous n'êtes pas encore mort, mais c'est déjà commencé. Je les entends, toutes ces âmes. Liberté, égalité, fraternité, justice,
humanité. Elle se rue partout, arrête la circulation, déborde le service d'ordre. Elle grimpe sur les becs de gaz, sur les monuments publics. Le droit à la vie, le droit à la paix, le droit de penser, de parler, de crier, le droit d'être bossu, bègue, nègre, juif, homme, le droit d'être châtain, le droit d'être rouge, vert, jaune, noir. Nous voulons pour nos enfants des morts naturelles. Elles se répandent partout, arrachent les pavés, mettent le feu à la maison de la culture fasciste, forcent les cordons de police, renversent les tramways. Une âme décorée de la croix de fer est piétinée et jetée dans l'égout. Tous les nuages sont couverts d'affiches, âme libre en avant. Et pour un front commun des âmes, unissez-vous. Schweig ? Ça va mal. Elles ont occupé la centrale électrique et la station de TSF. Personne ne leur résiste. Le pape a fait diffuser un message de sympathie. Où sont donc les âmes national-socialistes, Schweig ? J'ai l'honneur de vous rendre compte. Il n'y en a pas. Jawohl. C'est un déluge. Elles emportent tout sur leur passage. Il y a des ralliements sensationnels. Saint-Pierre a grimpé sur un nuage. Il prononce un discours. Il leur jette les clés du paradis. Entrée libre pour tous, sans distinction de race, vocifère-t-il. Il est porté en triomphe. La foule hurle sur l'air des lampions. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Schweig, tu crois vraiment que Dieu... Jawohl. Chut. J'entends un agréable bruit de bottes. Les âmes des ennemis de l'ordre semblent résister. Elle s'arrête. Quel est ce chant ? C'est le Hurst-Wessel-Lied. Ce sont nos troupes, Schweig, qui avancent. Ce sont les âmes de nos soldats mortels, la légion des âmes anti-bolcheviques. Elles avancent au pas de loi, au coude à coude. Quelle allure ! Sacré nom de Dieu, quelle allure ! Ça brille, ça étincelle, les poignards, les bottes, les ceinturons. Mais où sont les chefs, Schweig ? En bas, dit froidement le bon soldat Schweig. Il regarde son maître avec un certain espoir. Le protecteur de la Serbie fait un effort pour se lever. Il n'y a pas un instant à perdre, bredouille-t-il. Il tombe sa veste et commence à enlever ses bretelles. Il faut les mener au combat, hoquette-t-il. Il faut donner un chef à nos héroïques pionniers. Schweig, aide-moi. Avec plaisir, dit Schweig. Il grimpe sur la table, il fait un nœud coulant et attache solidement les bretelles au lustre. Ensuite, il aide son maître à monter sur la table et le soutient avec dévouement. « Pas d'hésitation ! En avant !» bégait le protecteur de la Serbie, pendant que le fidèle Schweig lui passe le nœud autour du cou. « De l'audace, de l'initiative ! Sieg Heil ! Je prends le commandement !» Le fidèle Schweig le pousse obligeamment, il saute et se balance. Le choc semble le dessouler quelque peu, il se débat. Le bon soldat Schweig le regarde faire avec intérêt, mais le corps continue à se balancer et ce mouvement régulier lui donne le vertige. Il le saisit par les jambes et le maintient solidement jusqu'à ce qu'il ait fini de gigoter. Puis, il lui tourne le dos.
Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son barda contre son flanc qui bat. Quand un soldat s'en va en guérilla, dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Parti pour mourir un peu à la guerre. C'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pas cadencé. Des hommes, il en faut toujours, car la guerre se fout des serments d'amour, elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. simplement eu de la veine. Et puis voilà.
Les nuages couraient sur la lune enflammée, comme sur l'incendie on voit fuir la fumée. Et les bois étaient noirs jusqu'à l'horizon. Nous marchions sans parler dans l'humide gazon, dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes, lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes, nous avons aperçu les grands ongles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons écouté, retenant notre haleine et le pas suspendu, ni le bois ni la plaine ne poussaient un soupir dans les airs, seulement la girouette, en deuil, criait au firmament. Car le vent élevé, bien au-dessus des terres, n'effleurait de ses pieds que les tours solitaires, et les chênes d'en bas, contre les rocs penchés, sur leurs coudes semblaient endormis et couchés. Rien ne bruissait donc lorsque, baissant la tête, le plus vieux des chasseurs, qui s'était mis en quête, à regarder le sable en s'y couchant. Bientôt, lui que jamais ici on ne vit en défaut, a déclaré tout bas que ses marques récentes annonçaient la démarche et les griffes puissantes de deux grands loups cerviers et de deux louveteaux. Nous avons tous alors préparé nos couteaux et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches, nous allions pas à pas en écartant les branches. Trois s'arrêtent et moi, cherchant ce qu'ils voyaient, j'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient. Et je vois au-delà quatre formes légères qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères, comme font chaque jour à grand bruit sous nos yeux, quand le maître revient, les lévriers joyeux. Leur forme était semblable et semblable la danse, mais les enfants du loup se jouaient en silence, sachant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à demi, se couche dans ses murs l'homme, leur ennemi. Le père était debout, et plus loin contre un arbre, sa louve reposait comme celle de marbre qu'adoraient les Romains, et dont les flancs velus couvaient les demi-dieux, Rémus et Romulus. Le loup vient et s'assied, les deux jambes dressées par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu, puis, ce qu'il était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris. Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante du chien le plus hardi, la gorge pantelante et n'a pas desserré ses mâchoires de fer. Malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles, jusqu'au dernier moment où le chien étranglé, mort longtemps, avant lui, sous ses pieds, a roulé. Le loup le quitte alors, et puis il nous regarde, les couteaux lui restés au flanc jusqu'à la garde, le clouer au gazon, tout baigné, dans son sang, nos fusils entourés en sinistre croissant. Il nous regarde encore. Ensuite, il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche. Et, sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. Je reposais mon front sur mon fusil sans poudre, me prenant à penser, et n'ai pu me résoudre à poursuivre sa louve et ses fils qui, tous trois, avaient voulu l'attendre et, comme je le crois, sans ces deux louveteaux, la belle et sombre veuve ne l'eût pas laissé seule subir la grande épreuve. Mais son devoir était de les sauver, afin de pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, à ne jamais entrer dans le pacte des villes que l'homme a fait avec les animaux serviles qui chassent devant lui pour avoir le coucher, les premiers possesseurs du bois et du rocher. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nom d'homme, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes. Comment on doit quitter la vie, tous ces mots, c'est vous qui le savez, sublimes animaux. Avoir ce que l'on fut sur terre et ce que l'on laisse. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Ah, je t'ai bien compris, sauvage voyageur, et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Il disait, si tu peux, fais que ton âme arrive, à force de rester studieuse et pensive, jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté, où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. Gémir, pleurer, prier est également lâche, fais énergiquement ta longue et lourde tâche, dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis, comme moi, souffre et meurs sans parler. Je crois en l'homme, cette ordure. Je crois en l'homme, ce fumier, ce sable mouvant, cette eau morte. Je crois en l'homme, ce tordu, cette vessie de vanité. Je crois en l'homme, cette pommade, ce grelot. Cette plume au vent, ce boute-feu, ce fouille-merde, je crois en l'homme, ce lèche-sang. Malgré tout ce qu'il a pu faire, de mortel et d'irréparable, je crois en lui, pour la sûreté de sa main, pour son goût de la liberté, pour le jeu de sa fantaisie, pour son vertige devant l'étoile. Je crois en lui pour le sel de son amitié, pour l'eau de ses yeux, pour son rire, pour son élan et ses faiblesses. Je crois à tout jamais en lui, pour une main qui s'est tendue, pour un regard qui s'est offert, et puis, surtout et avant tout, pour le simple accueil d'un berger. Mes outils d'artisan sont vieux comme le monde. Vous les connaissez, je les prends devant vous. Verbe, adverbe, participe, pronom, substantif, adjectif. Ils ont su, ils savent toujours peser sur les choses, sur les volontés. Éloigner ou rapprocher, réunir, séparer, fondre ce qui est pour qu'en transparence, dans cette épaisseur, soit espéré ou redouté, ce qui n'est pas encore, ce qui est tout, ce qui n'est rien, ce qui n'est plus. Je les pose sur la table. Il parle tout seul, je m'en vais. Mes outils d'artisan sont vieux comme le monde. C'est une invitation secrète aux mystérieuses ambiguïtés. Retrouver l'instinct provocateur du poète qui sommeille en chacun de nous. Et qui ôte les habits explicatifs de nos intérieurs, des suites de mots. Invitation au jaillissement généreux, épousant les profondeurs muettes de la parole, roman de la vie présente. Poètes provocateurs, ont-ils respecté le protocole imposé aux yeux du monde depuis ce jour où je suis devenu fou? Je n'ai cessé d'arpenter les rues où la foule semble se décomposer en sombre revenant. Je me bouche le nez et parle d'une drôle de voix quand mes pas emboîtent les leurs. Bonjour, ni doux, ni amer. L'odeur de l'absence transcende l'attente. L'attente des oiseaux qui ne font que passer ravive les notes d'espoir à chaque battement d'ailes dans la partition du ciel, ne font que passer et nous laissent le souvenir d'un passage éclair, l'envol, le survol. La terre est sage, elle regarde de ses bons yeux le ciel sans chercher d'explication. C'est une invitation secrète. Ce soir, c'est une invitation officielle à venir avec nous partager les mots, des mots lus par Samuel Autexier, qui nous a lu des textes de Jules Mougin, des mots, des textes lus par Nathalie Vautier, qui nous a lu des textes de Romain Gary. Et puis, vous avez entendu les musiques de Sakamoto. Vous avez entendu les Rolling Stones. Vous avez entendu Suzanne Sanford, Edwin Starr, Jacques Brel, Nick Cave, les Pink Floyd. Les textes de Jules Mougin sont édités aux éditions Robert Morel. Une page d'histoire de Romain Gary, c'est une nouvelle chez Folio. Vous avez entendu La mort du loup d'Alfred de Vigny, Credo de Lucien Jacques, les outils posés sur la table de Jean Tardieu. Vous avez entendu aussi le son du clairon, le chant du coucou, l'hurlement du loup, des bruits de pas et nos voix. Merci Samuel d'être venu nous lire ces textes. Merci beaucoup à toi. Bonsoir.
Merci. Bonsoir.
Bonsoir.